J'invite à ouvrir votre Bible dans le deuxième livre aux Thessaloniciens, chapitre 3. On aura ce soir l'occasion de terminer cette série de méditations sur le deuxième épître aux Thessaloniciens. Et puis les chants étaient particulièrement bien choisis. Merci d'avoir préparé tout cela. De Thessaloniciens, chapitre 3. On va relire le chapitre en entier. On a eu l'occasion la semaine dernière de se servir déjà de ce chapitre-là pour voir les trois sujets de prière que Paul demandait aux chrétiens de prier. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans ce que je dis, mais Paul demande de prier pour trois sujets. Donc c'était la première raison, c'était est-ce que je vous pose la question ou est-ce que je vous précède ? Le premier sujet de prière, c'était de prier pour que la parole se répande. De toute façon, on va le relire. Et nous n'oublions pas non plus, nous aussi, de prier chaque jour. Pour dire, Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir témoigner. Donne-moi l'occasion d'être un moyen de répandre ta parole. La deuxième prière, c'était que la parole soit glorifiée. Très bien. C'est-à-dire qu'elle soit accueillie avec honneur. Que c'est bien d'annoncer l'évangile, mais il faut que les gens... Quand ils entendent la parole, mais qu'ils réalisent que ce n'est pas n'importe quoi ce qu'on leur donne. Il faut qu'on prie pour que cette parole ne soit pas seulement entendue comme une information comme les autres, mais qu'ils réalisent que c'est important la parole. C'est, pardonnez-moi l'expression au sens propre et figuré, mais c'est sacré. Sacré. C'est pas n'importe quoi. Chaque verset de l'évangile est une puissance. Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un mot de Dieu bouleverse une existence. Et puis la troisième sujet de prière qui pourrait nous surprendre, mais c'est on va le relire, c'est Paul qui demande de prier pour ça. Prier pour que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Prier pour qu'effectivement l'Église, les serviteurs soient débarrassés de ceux qui se disent croyants, mais qui n'ont pas la conduite, qui se comportent encore avec perversité, c'est-à-dire avec hypocrisie, avec tromperie et avec méchanceté, c'est-à-dire avec un cœur, c'est pas la méchanceté, tiens, il est méchant, mais c'est contraire à la bienséance de Dieu. Donc, mais on va maintenant que vous êtes à la page, on va relire le chapitre 3 et vous allez voir quelle transition on va faire, parce que le thème de ce soir, c'est avec la notion de la fidélité de Dieu. Et on va voir comment Paul fait la transition. De Thessaloniciens, chapitre 3, au reste, frères, priez pour nous. Priez pour, donc, que la parole du Seigneur se répande et qu'elle soit glorifiée, comme elle est chez vous, mais afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non seulement les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons point eu le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, eh bien notez-le. Et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. Et c'est ainsi que j'écris, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait ces trois sujets de prière et que le dernier sujet de prière nous avait un petit peu occupé quand même la semaine dernière, parce qu'il était important de rappeler qu'effectivement, dans l'Église, tous ne sont pas parfaits. Dans l'Église, il y a ce que Paul décrit comme étant des hommes et des femmes méchants et pervers. On a lu la semaine dernière un différent passage où Paul parle même de faux frères qui étaient même mis en danger par certains. On pourrait dire, mais c'est pas normal. Et vraiment, c'est important que déjà on réalise, et surtout les jeunes convertis, que les jeunes convertis réalisent qu'effectivement dans l'Église, eh ben, y a des gens, ils sont là, mais leur cœur n'est pas au Seigneur. Alors ils ont des comportements, ils ont des réactions qui ne sont pas très glorieux, et de temps en temps, malheureusement, ça a causé du tort. Mais Paul explique. Il dit bien que ce sont des hommes méchants et pervers, car ils n'ont pas la foi. Et là, c'est une difficulté de traduction, parce que c'est vrai que nous, quand on dit la foi, on pense assez spontanément, ils n'ont pas la croyance. Ils ne pensent pas au Seigneur comme on aurait tendance à dire que oh, il faut avoir la foi, il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Mais en fait, le mot foi, c'est la notion de la confiance, mais c'est aussi la notion de la fidélité. En fait, on pourrait très bien traduire cette expression-là par ils n'ont pas tous la foi, sous-entendu, ils ne sont pas tous fidèles, ils ne sont pas tous honnêtes. Quand on dit de quelqu'un qu'il est fidèle, d'ailleurs on parle de Moïse par exemple, on parlait de Moïse tout à l'heure, la Bible dit que Moïse était un homme fidèle dans toute la maison. C'est-à-dire qu'on savait que Moïse, dans les moindres détails qu'on pouvait lui confier, on savait que le gars il serait carré, honnête, droit. Et c'est cette notion-là. Quand Paul dit « ils n'ont pas tous la foi », il est en train de... Enfin, que c'est traduit, ils n'ont pas tous la foi. En fait, il est en train de communiquer cette notion. C'est qu'il y a des gens, c'est vrai, ils sont là au milieu de nous, ils entendent l'évangile, ils sont même peut-être capables de prier, mais ils ne sont pas dans cette sincérité, dans cette pureté, dans cette droiture, dans cette fidélité. Tous n'ont pas cette qualité morale et spirituelle. Et c'est de là qu'il y a une transition incroyable, parce que Paul écrit, on l'a vu, il le dit lui-même, c'est ma lettre. Et donc il dit, mais tous n'ont pas la foi, tous n'ont pas cette fidélité. Et au lieu de fixer son attention là-dessus, tout de suite après, il écrit, le Seigneur est fidèle. Et ça, c'est une démarche spirituelle que nous devons avoir. Nous ne sommes pas appelés à regarder, à savoir si Pierre, Paul, Jacques, André, Martine ou Jeannette sont fidèles ou pas fidèles. Ce qui est important, c'est de lever les yeux vers celui qui est fidèle. Amen. Et Dieu est fidèle. Dieu est le fidèle. Et c'est vers lui, envers et contre nous que nous devons fixer nos regards. Bien sûr, et Paul le dit, les prédicateurs, les enseignants doivent être des référents. Mais celui qui doit être la référence des références, celui sur lequel on peut garder notre regard et sans crainte, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur est fidèle. Alors, qu'est-ce que signifie cette expression « le Seigneur est fidèle » ? Cette notion de la fidélité, n'est pas tout à fait la même que quand on dit qu'un couple est fidèle. Quand on dit que un chien est fidèle, c'est-à-dire qu'il reste attaché à son maître. Quand on dit qu'un couple est fidèle, c'est-à-dire que les deux restent attachés et qu'ils ont traversé des tempêtes et tout, mais ils sont fidèles, ils n'ont pas cherché à aller ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a cette notion-là. Mais quand la Bible nous parle de la fidélité de Dieu, avant de parler de du fait qu'il va demeurer avec nous, et là encore, on va voir tout à l'heure qu'il y a des conditions quand même, c'est que surtout cette expression « le Seigneur est fidèle » signifie qu'il ne change pas. C'est surtout ça qu'il faut réaliser. Quand on lit « le Seigneur est fidèle », c'est-à-dire qu'il est surtout fidèle à lui-même. Il ne change pas. En Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est écrit « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Quel âge avez-vous? Allez. Moins de 80 pour la plupart d'entre vous. Mais quel âge a Dieu? Est-ce que vous avez changé en moins de 80 ans? Bien sûr que vous avez changé. Et les convictions d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Et il y a même fort à parier que dans quelques années, il y a encore des points sur lesquels on aura évolué, changé. Nous changeons, n'est-ce pas? Nous évoluons. Enfin, il faut que ce soit dans le sens de l'évolution, d'ailleurs. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il n'y a point ombre de variation, dit-il en lui-même. Il ne change pas, il est le même caractère. Les mêmes motivations. Avez-vous les mêmes motivations? Les mêmes projets? Dieu a toujours eu le même projet, celui de sauver l'humanité, celui de rendre heureux l'homme, de le délivrer, les mêmes priorités. Dieu a des priorités, et depuis toujours c'est les mêmes. Le salut de l'âme, la restauration intérieure, la délivrance physique et la vie éternelle. Il y a des priorités dans l'ordre de Dieu. Les mêmes buts, les mêmes objectifs. Dieu a toujours eu la même personnalité. Il n'y a pas un Dieu dans l'Ancien Testament et un Dieu dans le Nouveau Testament et puis un Dieu entre les deux, parce que pendant un temps, il y a eu un grand moment de silence, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis Dieu sera le même dans 2000 ans. La même mentalité, le même caractère, la même personnalité. Et c'est important de réaliser que quand il est dit que Dieu ne change pas, qu'il est fidèle, qu'il ne change pas, c'est pour nous aussi une constance et un appui pour le reste. C'est parce que Dieu ne change pas qu'on peut lui faire confiance. D'ailleurs, la suite du verset que j'ai lu tout à l'heure en Hébreux chapitre 13, verset 8, on connaît cette phrase-là, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais dans la suite de la logique, il est écrit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères ». C'est la suite. Jésus est le même, alors ne vous laissez pas embarquer. Sous-entendu, Jésus est le même depuis toute éternité. C'est le même caractère, les mêmes objectifs, les mêmes priorités, la même manière d'aimer les gens, le même objectif. Alors ne vous laissez pas embarquer dans des raisonnements qui voudraient justement changer le caractère de Dieu. Ne vous laissez pas embarquer dans des théories, des doctrines qui feraient croire que quelque part, mais est-ce que Dieu n'aurait pas changé? Est-ce que Dieu, lui, il aurait d'autres priorités? Est-ce que Dieu n'aurait pas changé de caractère? Est-ce que Dieu n'aurait pas changé d'objectif? Est-ce que Dieu n'aurait pas changé sa manière de faire? Non. Savoir et connaître Dieu dans sa personne, c'est très important. C'est pour ça que nous aimons aussi prendre des enseignements de l'Ancien Testament, parce qu'au travers de ces enseignements, nous ne découvrons pas seulement des histoires, mais nous découvrons le Dieu de la Bible. Et ce que nous comprenons du Dieu de la Bible, c'est le même aujourd'hui et c'est le même demain. C'est pour ça que c'est très important, quand on lit la Bible, non pas de chercher à connaître des histoires, mais à chercher à comprendre la mentalité de celui qui est l'auteur de la Bible. À comprendre le cœur de Dieu, à comprendre la manière de faire de Dieu, à comprendre, à chercher les priorités de Dieu, à comprendre les objectifs de Dieu. Parce que si on ne cherche pas à comprendre le cœur, la personnalité de Dieu, mais alors effectivement, on va se baser sur l'extérieur et on se trompe. Ça nous est tous arrivé de juger une personne sur l'extérieur, n'est-ce pas? Et dit, oh, ah ouais. Et puis après, on s'est aperçu qu'on s'est trompé. On dit, ah, mais non, en fait, pas du tout. Ah, en fait, il est comme ci, comme ça. Ça peut arriver aussi dans l'autre sens. C'est pour montrer qu'il y a toujours une différence entre un regard qui se contente de l'extérieur et une approche où on essaye de connaître la personnalité de la personne, son caractère, ses émotions, ses motivations. Et là, ça change. Et on comprend d'ailleurs mieux, de temps en temps, les actions ou les réactions. Et il faut chercher à lire la parole de Dieu, non pas seulement dans les histoires, dans les faits, mais dans les actions, dans la mentalité, dans le cœur. Ce que l'on apprend de Jésus, de Dieu dans l'Ancien Testament, est toujours vrai aujourd'hui. D'où l'importance de réaliser que sa sainteté n'a pas changé. Quand on lit l'Ancien Testament et qu'on s'aperçoit que de temps en temps ça paraît dur, ça paraît sévère, ça paraît carré. Mais oui, mais Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu reste quelqu'un de saint, de droit, de juste. On voit également son amour qui n'a pas changé. On voit son désir de sauver, d'intervenir, son désir d'établir une justice au milieu des gens. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que quand on lit la Bible, et qu'effectivement, il y a une différence entre la manière de vivre dans l'Ancien Testament et la manière de vivre dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas Dieu qui change. C'est la pédagogie de Dieu qui change. Ce n'est pas le caractère de Dieu qui change, mais c'est sa manière de faire comprendre, sa mentalité qui change. Tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'ils n'ont pas utilisé la même pédagogie avec leur enfant lorsqu'il avait 3 ans qu'avec leur enfant lorsqu'il a 15 ans. C'est bien les mêmes parents, avec les mêmes cœurs, avec les mêmes objectifs pour cet enfant. On veut qu'il s'épanouisse, qu'il soit grand, qu'il soit mature. Mais on n'apprend pas les mêmes choses à notre enfant lorsqu'il a 3 ans que quand il en a 15. Ce n'est pas le papa qui change, mais c'est sa manière d'apporter les enseignements, les directions, les conseils qui changent. Et il en est de même avec Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, qui effectivement s'étale sur plus de 6000 ans, Dieu n'a pas changé, mais c'est sa manière d'enseigner l'humanité qui change. Et Dieu s'adapte. Dieu s'est adapté aux hommes il y a 6000 ans. Et il a porté les hommes jusqu'à aujourd'hui pour qu'ils rentrent dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui change, Dieu ne change pas. Mais c'est sa manière de faire qui change, sa pédagogie. Ce n'est pas les objectifs de Dieu qui changent, non! Mais c'est la manière d'amener les gens vers ses objectifs. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui change, pas du tout! Mais c'est l'expression de son amour qui changeait en fonction des temps et des circonstances de l'homme. Parce que ce n'est pas une information nouvelle. Si je vous dis que l'homme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'homme qui a 2000 ans, avec l'homme qui a 6000 ans. Même nos grands-parents sont étonnés du changement de la société en quelques 50 années. On aurait du mal à imaginer ce que c'était il y a 500 ans la vie. Les rapports sociaux. Alors 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans. Mais Dieu n'est pas dépassé par ça. Et il a adapté sa parole en fonction de ce que les hommes de l'époque étaient capables. Ça s'appelle de la pédagogie. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ça veut dire qu'il y a une stabilité dans ce qu'il est. Il est fidèle à lui-même. Il ne change pas. Alors c'est vrai que, bon, c'est un peu facile aujourd'hui avec... c'est pour donner un contre-exemple. Un contre-exemple un peu facile. Surtout actuellement, où on vote de tout partout, où chacun a ses programmes. Mais on sait très bien, et on le sait, que ceux qui disent là, un jour, là, dans 5 jours, c'est plus fiable. Votez pour moi, je vous promets. Mais c'est une fois qu'ils sont élus, ils commencent déjà à bricoler, quoi. Ouais, enfin, vous comprenez que, bon, oui. L'homme est changeant, instable. Il n'est pas, l'homme n'est pas fidèle. L'homme n'est même pas fiable. Mais Dieu lui l'est. Quand la parole dit « Je t'aime d'un amour éternel », c'est pas pour dire dans 3 jours « Ah oui, mais non, il fallait pas comprendre tout à fait ce que je vais vous te dire, quoi. » Quand Dieu dit une chose, on sait que quelles que soient les circonstances, la chose que Dieu a dite, c'est vrai. On peut s'appuyer dessus. Il dit une chose et il a le pouvoir de l'appliquer. Il dit une chose et nous pouvons nous appuyer solidement sur cette chose. Et ça, c'est la chose là, la plus précieuse que nous ayons. Savoir que Dieu est fidèle, c'est peut-être la seule chose qui nous soutiendra lorsque tout va s'écrouler autour de nous. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tout s'écroule. Tout. Tout. On peut tout perdre. Tout. Jésus ne nous a jamais fait aucune promesse de « Non, non, toi, on sera préservé de tout. » On peut tout perdre. La santé, la situation professionnelle, les amis, nos repères spirituels. On peut être complètement déconcentré. Tout peut s'écrouler, se dérober sous nos pieds. Ce jour-là, rappelez-vous que Dieu est fidèle. Parce que ce point-là, ce point d'appui, sera le seul sur lequel vous pourrez vous reconstruire et retrouver une sérénité, une constance, un renouvellement, et sur lequel, après que votre vie ait été nettoyée, épurée, vous pourrez enfin retrouver une solidité, une stabilité. Dieu est fidèle. Alors il y a d'ailleurs, et je vais en profiter, un verset qui de temps en temps est pas toujours bien compris d'ailleurs. C'est en 2 Timothée chapitre 2 verset 13 où il est écrit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Et une fois qu'on a expliqué là le sens du mot fidèle, c'est-à-dire qu'il ne change pas, là c'est un peu plus lisible. Parce que si on reprend, si nous sommes infidèles au sens de changeant, d'instable, lui ne change pas car il ne peut se renier. De temps en temps, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, en fait, si je commence à être infidèle, c'est-à-dire que si je commence à pécher, si je commence à faire des choses qui ne sont pas très fidèles, très justes, oh, mais Dieu va continuer à être fidèle, au sens, il va rester avec moi, il n'ira pas voir ailleurs, il continuera à me bénir, il continuera à être proche de moi, il continuera à m'accompagner. » Mais c'est faux, ça. Ça, c'est faux. C'est pas du tout le sens de la phrase. Si nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on est attaché à lui, quand on est dans son obéissance à la parole de Dieu, quand on est dans la soumission à sa volonté, quand on cherche à lui être agréable, quand on est dans une complicité affective. Et quand on est dans une complicité affective avec quelqu'un, on ne cherche pas à le tromper, à lui piétiner le pied, à lui cracher au visage, à se détourner, à ne pas l'écouter. Au contraire, quand on est dans une affection affective, on sait tout l'inverse. On cherche l'écoute, la communion, cette complicité à tout niveau. Et c'est cela, être en Christ, c'est ça, c'est créer ce lien de connivence entre Dieu et nous. Et quand on est dans cette relation, alors oui, nous avons le plus fidèle des amis, au sens le plus attaché. Et le sens de cette phrase-là, si nous sommes infidèles, si moi je commence à faire n'importe quoi, Dieu lui restera le même. Si moi je commence à dire n'importe quoi, Dieu lui, il reste un homme saint. Si moi je commence à être dur, à être méchant avec les autres, Dieu lui continue à être un Dieu d'amour. Car, et c'est vraiment l'astuce de la fin, il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous, on est capable de se renier par nos actes. On est capable de dire des choses et puis trois jours après de dire autrement. Mais ça, c'est la nature humaine, elle est mauvaise. Perverse, si on reprend la pensée de Paul. Mais Dieu, lui, c'est pas possible. Lui qui est saint, lui qui est parfait, il ne peut pas se renier lui-même. Alors, je voudrais voir ce soir, 1, 2, 3, 4 points. Oh, rapidement, vous inquiétez pas. 4 points, 4 domaines de la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que on a vu que le fait que Dieu soit fidèle, c'est-à-dire qu'il ne change pas, c'est pour nous un point de confiance. C'est parce qu'il ne change pas dans ces domaines qu'on peut lui faire confiance. Et je voudrais là, au travers de ce qu'on a lu tout à l'heure, relever 4 points de fidélité, 4 points d'accroche sur lesquels on sait que là, quoi qu'il arrive, Dieu sera fidèle à lui-même. Alors il nous est dit là, qu'il nous préservera, qu'il nous affermira et vous préservera du malin. Je cherche le verset. Ah ben c'est la suite du verset 3, pardonnez-moi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Il vous affermira, ça veut dire il vous rendra fort. Il vous rendra solide. Dieu à ce désir, cette fidélité, cette constance, cette orientation, c'est de nous rendre solides dans les circonstances de la vie. Et reconnaissons, quand on entend, on s'en prend plein la figure, reconnaissons qu'il y a des vies où moi-même, que je considère la vie de certains frères, de certaines sœurs, je me dis, si j'étais à leur place, je serais cassé. Il y a, au plus profond de mon cœur, mais des exemples de force spirituelle. Parce que je sais très bien que si moi j'étais à leur place, mais je ne tiendrais pas. Et je sais que leur force n'est pas en eux, en elles. Je sais que leur force est dans le Seigneur. Je sais que dans leur intimité, dans leur attachement, ils savent que c'est le Seigneur Jésus qui les rend forts, qui les rend capables, non pas d'être au-dessus de la moyenne, mais qui les rend suffisamment forts pour tenir debout. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose qui est expérimenté. Ça, c'est un point d'ancrage sur lequel on peut dire, Seigneur, je n'en peux plus, je suis trop faible, je n'y arriverai pas. Mais je sais, Seigneur, que tu veux m'affermir. Tu veux me rendre fort. Et comme tu es fidèle, je sais que tu le feras. Alléluia. C'est Paul qui disait, c'est parce que je suis faible que je suis fort. Même l'apôtre Paul. Reconnaissez et trouvez même presque chouette de se sentir dans une situation de faiblesse parce qu'il sentait que lorsqu'il était faible, alors c'était le Seigneur qui lui permettait d'avoir plus de force. Alléluia. Et c'est même un exercice que l'on pourrait avoir. À ne jamais trop compter sur nos forces, mais toujours à s'appuyer sur le Seigneur. Lorsque nous nous sentons faibles et impuissants, cherchons d'abord, Seigneur, affermis-moi. Rends-moi plus fort, rends-moi plus costaud, rends-moi capable, Seigneur. Et c'est une expérience à faire. Même dans, face au péché, quand il nous dit, il nous affermira, il nous préservera du malin. Il y a des circonstances où ce n'est pas une fragilité intérieure, où ce n'est pas les circonstances qui sont dures à supporter. Mais le diable est là. Il nous est dit que le diable est comme un lion. Il rôde, cherchant à dévorer. Et il y en a un qui est appelé l'ennemi de notre âme. Le mot diable veut dire celui qui se jette au travers. Il y a des circonstances où il y a des tentations. On sait qu'on ne doit pas le faire, mais on est attiré, on est happé. Seigneur, je sais que tu me peux rendre fort et me préserver du malin. Seigneur, donne-moi la force de dire non au péché. Je sais que dans ta fidélité, tu le feras. Amen. Le Seigneur veut nous donner la force de ne point succomber au péché. C'est Jacques qui nous le dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Il faut cet équilibre. Je m'attache à toi, Seigneur. En même temps, je résiste au diable. Parce que je sais qu'en résistant, le Seigneur me rendra fort et il me préservera du mal. Amen. On retrouve cette logique d'être d'abord attaché au Seigneur, qui est la source et qui, dans sa fidélité, nous rendra fort face à tous les obstacles. Alléluia. Le deuxième point de fidélité sur lequel nous pouvons nous appuyer invariablement, c'est écrit au verset 5. Que le Seigneur vous conduise. Oui, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Voilà. On reparlait tout à l'heure le caractère, c'est la nature même de Dieu. C'est pas que Dieu aime, mais Dieu est amour. Moi j'aime ma femme, mais je suis pas amour. Parce que même l'amour que j'ai pour ma femme, il est forcément limité. L'amour que Dieu a pour nous est sans limite. Parce que c'est sa nature même d'aimer. C'est ça qui est incroyable. Nous, même dans la nature de l'amour, il faut reconnaître, on a nos limites. Quoi, hein. Et même quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime très fort, c'est fort, voilà quoi, hein, un peu faiblard de temps en temps. Hein. Mais Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'effort à faire pour aimer. C'est normal pour lui. C'est dans sa nature. Dieu est amour. Mais bien aimé, il y a un point de fidélité sur lequel on peut s'appuyer. C'est que Dieu nous aime. Dieu t'aime. Mais même quand je dis ça, je ne peux pas avoir la force de conviction. Parce que la seule manière de le savoir, c'est de l'expérimenter. Mais dites-vous bien, sachez bien que Dieu t'aime. Avec tout ce que j'ai, tout ce que t'as fait, Dieu t'aime. Il ne peut pas ne pas faire. Il ne peut pas faire autrement que ne pas t'aimer. C'est dans sa nature. Dieu n'exclut personne. Les hommes s'excluent de Dieu. Ça, c'est autre chose. En péchant, on s'exclut. Il y a, de temps en temps, dans ces rapports sociaux, des choses qui sont en temps très particulier, on voit par exemple des parents qui n'ont plus de relation avec leurs enfants. Mais la plupart des fois, qu'est-ce que c'est? C'est pas que c'est les parents qui n'ont plus d'amour pour leurs enfants. J'ai bien souvent l'amour que Dieu met dans le cœur d'un père et d'une mère, c'est naturel, ça vient comme ça. Mais on voit que le comportement de l'enfant va faire que cet enfant va plus ou moins s'éloigner de ses parents. Et bien souvent, elle est là à la cause de l'éloignement ou du rapprochement. Soit l'enfant réalise l'amour de ses parents et il est plein de reconnaissance et il cultive, il entretient cette relation. Ou alors, pour des raisons diverses, il prend ses distances et coupe les ponts. Il en est de même entre Dieu et l'espèce humaine. Dieu aime tous les hommes, tous sans exception. Mais en fonction de notre comportement, soit on se rapproche de cet amour et on est des bénéficiaires, soit on s'en tient à l'écart et on croit que Dieu est loin, alors que ce n'est que les hommes qui prennent de la distance avec lui. Non, Dieu est amour. Et quand on lit 1 Corinthiens chapitre 13, la première vertu de l'amour, c'est la patience. Et on retrouve cette cohérence. Que le Seigneur vous conduise vers l'amour de Dieu et la patience de Christ, c'est lié. C'est en 1 Corinthiens, il me semble, je vérifie. Non, 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, pardonnez-moi. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Que l'apôtre Pierre nous fait réaliser et nous demande de réaliser que la patience de Dieu, c'est notre salut. Sous-entendu que si Dieu n'avait pas usé de patience à notre égard, on serait peut-être en enfer. Si Dieu n'avait pas patienté à mon égard, je serais en enfer, c'est sûr. Il m'a fait la grâce de patienter 20 ans. Pour certains, Dieu patiente 30 ans, 40 ans. 50 ans. Certains finissent par se tourner vers lui juste la veille de leur mort. Mieux vaut tard que jamais. Mais la réalité, c'est que la patience, on n'en connaît jamais trop les limites. Et surtout, on ne sait jamais quand le jeu va s'arrêter. Et quand je parle de jeu, c'est la partie de notre vie. Dieu patiente. Même lorsqu'on est en train là, actuellement de parler de mort, comprenons que la mort n'est pas forcément un jugement de Dieu. Que quelqu'un meurt à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce n'est pas une question de justice de Dieu. Le monde est un monde injuste. Et la mort fait partie du royaume des ténèbres, comme la maladie. Dieu n'est pas la source de la mort, Dieu n'est pas la source de la maladie, Dieu n'est pas la source du carnage. Mais le diable, lui, c'est lui qui est le maître de ces choses-là. Lorsque la mort frappe, elle frappe de manière injuste. Ce n'est pas Dieu qui dit « Ah, ça y est !» Mais si Dieu, effectivement, n'usait pas de patience à l'égard de chaque être humain, alors nous serions tous, non seulement dans quatre planches, mais sûrement en enfer. Parce que si Dieu avait la même patience, allez, que moi, il n'y aurait personne ici ce soir. Mais Dieu patiente. Ça veut dire qu'il est capable de s'attendre au meilleur de chacun d'entre nous. Quand on voit le petit Éphraïm, il faut de la patience avec Éphraïm. Hein, il faut lui dire combien de fois les choses à Éphraïm.
Tout le temps.
Tout le temps. On ne peut même plus compter. Et il faut de la patience. Mais c'est pareil que Dieu a avec nous, franchement. La grande différence, c'est qu'en plus Dieu a le pouvoir de juger. Nous savons que, en tant que parents, on, pire des cas, on s'énerve et on fouette, quoi. On chauffe la cuisse. Mais Dieu, qui est encore plus saint que nous et qui a le pouvoir de juger, pourrait, dans sa hauteur, dans sa grandeur, dire « Oh, toi, tu me fatigues trop, mille excuses. » Plus on est haut placé, plus on s'aperçoit que les gens sont impatients. Parce qu'ils ont autre chose à faire que de s'occuper des choses qui les embêtent. Et Dieu, c'est complètement l'inverse. Il est tout puissant. Et toutefois, il ne nous écrase pas, nous dit la parole de Dieu. Il patiente. Seigneur, merci pour cette patience. L'autre point de fidélité, de constance, sur laquelle nous pouvons nous appuyer, il nous est écrit au verset 16, il nous est parlé de la paix que Dieu peut nous donner en tout temps et de toute manière, c'est-à-dire en toute circonstance. S'il y a bien quelque chose qui caractérise la présence de Dieu dans le cœur de quelqu'un, c'est la paix. C'est, d'ailleurs, la Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la sainteté, la pureté, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si vous voulez savoir si vous êtes dans le Seigneur, voilà. Est-ce que vous vivez dans la sainteté, dans la justice? Oui. Est-ce que vous vivez dans cette paix, dans cette sérénité, dans cette quiétude? Oui. Est-ce que vous vivez dans cette joie, dans cette communion qui fait que, qui est cette légèreté, ce sourire, cette joie? Oui. Alors vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes dans le Seigneur. Et la paix, c'est une chose que nous pouvons réclamer du Seigneur. Oui, mais avec toutes les difficultés que j'ai, eh bien justement, appelle-en à la fidélité du Seigneur, et Dieu est fidèle, il est constant, et il te donnera cette paix. La Bible nous parle même d'une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que, c'est bien que, malgré le raisonnement, malgré les raisons qui devraient faire qu'on n'est pas dans la paix, eh bien, il y a une paix qui est encore plus extraordinaire. Ça, vous pouvez le lire dans Philippiens chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui, justement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On retrouve cette logique, cette cohérence. Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Je ne peux pas la puiser en moi. Je ne peux pas la puiser en considérant les éléments de ma vie. Mais Seigneur, c'est vers toi que je lève les yeux. Je sais que je peux m'appuyer sur ta nature pour me communiquer cette paix. Encore une chose à expérimenter. Et puis le dernier point qui se trouve en conclusion, il nous est parlé de la grâce du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Là aussi, c'est un point de fidélité, c'est un point de repère, c'est un point de constance en Dieu. Il est très lié à son caractère d'amour, mais j'ai voulu quand même le relever. C'est que la grâce de Dieu, c'est quoi ? C'est la faveur de Dieu. C'est le regard bienveillant de Dieu sur nos vies. Le diable veut justement nous faire croire que Dieu nous regarde bizarrement, que Dieu nous regarde du coin de l'œil, que Dieu nous regarde avec des arrière-pensées, mais pas du tout. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit avec vous, que la bienveillance de Dieu soit avec vous. Et ça, c'est un point de fidélité. Vous pouvez être certain que si vous cherchez à plaire à Dieu, à être attaché à lui, mais vous avez le regard bienveillant de Dieu sur vous, ça c'est inéluctable. Arrêtez, faites fermer la tête, la bouche du détracteur, du culpabilisateur, ou même des gens qui sont autour de vous, qui sont toujours en train de vous faire croire que vous n'êtes jamais assez bien, que vous n'avez jamais fait assez suffisamment, qu'il faudra encore faire ceci. Stop! Nous n'avons rien besoin de faire ou de prouver pour avoir le regard bienveillant de Dieu sur nous. La grâce de Dieu. La notion de grâce, c'est la notion d'immérité. Vous méritez quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de manière imméritée, Dieu a un regard bienveillant sur vous. Par nature. Parce qu'il vous aime. Oui, mais j'ai pas fait. Oui, mais j'ai fait. Que vous ayez fait ou que vous n'ayez pas fait. L'intention, le regard de Dieu sur votre vie est un regard bienveillant parce qu'il sait que c'est quand on commence à se sentir aimé, quand on se sent valorisé, qu'on commence à donner le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas? Quand quelqu'un nous regarde de travers, on n'a plus envie, on n'est plus motivé. Quand quelqu'un commence à nous regarder avec déjà de la suspicion dans le regard, on n'a pas envie de se donner. Mais quand quelqu'un nous regarde avec un regard bienveillant, avec ce regard plein de patience, s'attendant à ce qu'on fasse le meilleur, alors on le fait de bon cœur, n'est-ce pas? Et c'est ça la mentalité de Dieu, c'est ça la mentalité du ciel, c'est ça la fidélité de Dieu, c'est ça le caractère de Dieu, c'est ça sa nature. Dieu est fidèle, amen. Et je voudrais juste terminer par ce simple verset de Hébreux chapitre 4 verset 16. Après avoir dit tout ce que nous avons dit là, approchons-nous donc avec assurance, avec confiance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Sachant cette fidélité, cette constance, alors approchons-nous de Dieu avec confiance. Seigneur, je n'ai point à craindre. Au contraire, je réalise que ta constance est pour moi une sécurité. Et je peux m'approcher de toi pour trouver du secours dans mes besoins. Alléluia.